Bonjour, c'est un plaisir d'être avec vous ce matin et de réfléchir ensemble autour d'un texte de la Bible qui nous encourage dans notre mission de témoin. Voilà, juste avant de commencer à réfléchir au texte, un petit mot de présentation. Je m'appelle Thomas Audap, je viens de l'église baptiste de Noisy-le-Grand dans l'Est parisien. Et donc, je suis arrivé hier aussi pour la formation du CFRI. Là, vous pouvez voir une petite photo de ma famille et puis voilà de mes différentes activités. J'ai l'occasion de servir par l'enseignement, par la prédication de l'Évangile. J'ai aussi une chaîne YouTube qui s'appelle Thomas le Pasteur où je fais des petites vidéos d'apologétique, c'est-à-dire de défense de la foi, montrer les bonnes raisons de croire. Voilà, je poursuis aussi un master avec la faculté Jean Calvin à Aix-en-Provence après une formation initiale à l'Institut biblique de Nogent-sur-Marne. Et je suis aumônier des prisons dans la ville de Meaux. Donc, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez scanner ce QR code. Vous pouvez aussi récupérer le PDF de la présentation de ce matin. Et sur cette page, vous avez aussi l'occasion, si vous le désirez, de vous inscrire à ma lettre de nouvelles où je donne quelques informations. Et puis, je propose aussi une formation pour développer sa vie de témoin. Vous pouvez aussi la récupérer. Si le scan du QR code ne marche pas très bien, vous pouvez tout simplement taper cette adresse dans votre navigateur. Donc voilà, je travaille avec cette association qui s'appelle France Évangélisation et qui a pour but d'accompagner des évangélistes sous toutes leurs formes. Et une fois par mois, le jeudi soir, il y a un masterclass, donc une session en ligne où on peut réfléchir ensemble autour de différents thèmes sur l'évangélisation. Et ce mois-ci, ce sera avec Carrie Mareski sur le thème de témoigner à nos amis musulmans. Mais voilà, rentrons dans la prédication. Vous savez, quand on parle du témoignage, de communiquer l'évangile, d'évangéliser, nous sommes souvent confrontés à des obstacles. Nous avons des obstacles intérieurs, nous avons des fois de la timidité, nous avons peur, mais il y a aussi des obstacles extérieurs, des mauvaises interprétations de certaines lois, des difficultés, du rejet. Et nous nous disons, ben, est-ce que ce sont des raisons pour baisser les bras, on s'arrête là, ou alors est-ce qu'on va continuer? Et dans le texte que nous allons lire tout de suite, nous voyons que la bonne nouvelle est plus forte que les obstacles. Les obstacles n'ont pas permis d'arrêter la progression de la bonne nouvelle. Alors, je vous propose de lire dans le livre des Actes, au chapitre 8, les versets 1 à 13, qui s'affichent là et que vous pouvez aussi suivre dans vos Bibles. Je vais en faire la lecture. Saul approuvait l'exécution d'Étienne. Ce jour-là, une grande persécution éclata contre l'Église de Jérusalem et tous, à l'exception des apôtres, se dispersèrent dans les diverses régions de Judée et de Samarie. Des hommes pieux enterrèrent Étienne et le pleurèrent beaucoup. Quant à Saul, il cherchait à détruire l'Église. Il pénétrait dans les maisons, en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu et annonçaient la bonne nouvelle de la parole. Philippe descendit dans la ville de Samarie et y prêcha le Christ. Des foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe, lorsqu'elles apprirent et virent les signes miraculeux qu'il accomplissait. En effet, des esprits impurs sortaient de beaucoup de démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralysés et de boiteux étaient guéris. Il y eut une grande joie dans cette ville. Un homme du nom de Simon se trouvait déjà dans la ville. Se présentant comme un personnage important, il exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple samaritain. Tous, du plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient: Cet homme est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la Grande. Ils l'écoutaient attentivement parce qu'ils les avaient depuis longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais quand ils eurent cru à Philippe qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut aussi, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Il voyait avec étonnement les grands miracles et signes qui s'accomplissaient. Alors je vous propose de suivre ce plan ce matin. La bonne nouvelle se répand en Samarie, la bonne nouvelle plus forte que la persécution et la bonne nouvelle plus forte que la magie. D'abord, la bonne nouvelle se répand en Samarie. Donc sur cette carte, c'est le chemin, je ne sais pas si vous arrivez à voir, qui est en jaune et en violet et en jaune. La bonne nouvelle se répand en Samarie et on remarque tout de suite que c'est une croissance qui se fait. Il y a une étape supplémentaire dans l'accomplissement du plan de développement de la bonne nouvelle. Je vous explique. En Actes chapitre 1, verset 8, il était dit, donc c'est une parole de Jésus ressuscité qui dit aux apôtres, « Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit descendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, c'est-à-dire la région qui entoure Jérusalem, dans la Samarie, un peu plus au nord, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Et donc là, avec ce chapitre 8, on a ce basculement où on passe de la Judée à la Samarie. Donc c'est une nouvelle étape de croissance dans le développement de l'Évangile dans les toutes premières années. Mais nous voyons que cette croissance se fait dans la difficulté. La vie chrétienne n'est pas sans obstacles. La foi ne nous immunise pas contre les difficultés. Au contraire, l'apôtre Pierre dit à ses lecteurs, « En effet, c'est un privilège que de supporter des souffrances imméritées par motif de conscience envers Dieu. Quelle gloire y a-t-il en effet à endurer un châtiment pour avoir commis une faute ? Mais si vous endurez la souffrance tout en ayant fait le bien, c'est là un privilège devant Dieu. C'est à cela que Dieu vous a appelé, à la souffrance. » Car le Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple pour que vous suiviez ses traces. La foi ne nous immunise pas contre les difficultés. Et ces obstacles font souffrir. Il est question au verset 2 de deux hommes pieux qui enterrèrent Étienne et le pleurèrent beaucoup. La foi ne nous immunise pas contre la tristesse. Lorsqu'il y a un décès, même si nous avons l'espérance chrétienne, cela n'empêche pas la tristesse de la séparation. Des hommes pieux le pleurèrent beaucoup. Ce n'est pas juste des impies. Ce n'est pas qu'ils pleurent parce qu'ils n'ont pas la foi. Ils étaient pieux et ils pleurèrent leur ami qui est mort. Bien que croyants, nous restons pleinement humains. Ne fuyons pas notre condition humaine. Nous traversons les difficultés, bien sûr, avec l'espérance et la présence de Jésus à nos côtés, mais cela n'empêche pas la tristesse. Il y a de la place pour la souffrance dans la vie de foi. N'ayons pas peur de dire que nous souffrons et d'accueillir au sein de l'Église ceux qui souffrent. Et nous voyons aussi que l'expansion de l'Évangile se produit dans la difficulté. C'est un faux raisonnement de se dire « attendons que tout aille bien et ensuite allons témoigner et ensuite allons répandre la bonne nouvelle ». Non, au contraire, c'est dans la difficulté que l'Évangile se produit. Dans le livre des Actes, il y a énormément de difficultés et pourtant l'Évangile se répand. La bonne nouvelle se répand en Samarie. La bonne nouvelle est plus forte que la persécution. Ici, nous sommes confrontés à un obstacle physique, matériel, la persécution, et nous allons voir juste après, un obstacle spirituel, idéologique, la magie. Mais intéressons-nous déjà à la question de la persécution. Nous pouvons lire, Saul approuvait l'exécution d'Étienne. Ce jour-là, une grande persécution éclata contre l'église de Jérusalem et tous, à l'exception des apôtres, se dispersèrent dans les diverses régions de Judée et de Samarie. Des hommes pieux enterrèrent Étienne et le pleurèrent beaucoup. Quant à Saul, il cherchait à détruire l'Église. Il pénétrait dans les maisons, en arrachait hommes et femmes et les jetait en prison, et les faisait jeter en prison. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu et annonçaient la bonne nouvelle de la parole. La persécution n'arrête pas le témoignage, mais le répand. Lorsque l'on regarde le Nouveau Testament, la persécution est le contexte normal du développement du christianisme. Dans la prière d'Acte 4, quelques chapitres plus loin, alors que Pierre et Jean ont été saisis par le Grand Conseil et menacés, il n'est pas rapporté que les chrétiens prient pour l'arrêt de la persécution, mais le texte dit qu'ils ont prié pour avoir la force de continuer à annoncer l'Évangile. Dans le livre des Actes, les chrétiens acceptent simplement la persécution comme un fait, comme une évidence, mais à travers, ils ont persévéré et ils sont allés de l'avant avec audace. La persécution n'a jamais arrêté le développement de l'Évangile. Et encore aujourd'hui, dans des pays où la persécution sévit sévèrement contre le christianisme, l'Église grandit. J'ai eu l'occasion d'entendre le témoignage lors d'un congrès international que j'ai pu suivre en ligne d'une femme iranienne qui avait implanté 7 églises. Alors ça m'a absolument émerveillé lorsqu'on connaît la condition de la femme en Iran, de voir qu'une femme iranienne avait implanté 7 églises dans un contexte de persécution. Elle a fait un séjour en prison à cause de cette activité d'évangélisation. Plusieurs textes bibliques indiquent le caractère habituel de la persécution. Jésus annonce « Dans le monde, vous aurez à souffrir bien des afflictions, mais courage, moi j'ai vaincu le monde. » Il dit aussi « S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront, vous aussi. » Et l'apôtre Paul énonce clairement « En fait, tous ceux qui sont décidés à vivre dans l'attachement à Dieu par leur union avec Jésus-Christ connaîtront la persécution. » L'apôtre Pierre dit aussi « Mes chers amis, vous avez été plongés dans la fournaise de l'épreuve. N'en soyez pas surpris comme s'il vous arrivait quelque chose d'anormal. Au contraire, réjouissez-vous, car vous participez aux souffrances du Christ afin d'être remplis de joie quand il apparaîtra dans toute sa gloire. Si l'on vous insulte parce que vous appartenez au Christ, heureux êtes-vous, car l'Esprit glorieux, l'Esprit de Dieu, repose sur vous. » Ces textes et bien d'autres encore nous montrent que la persécution fait partie du développement normal du christianisme. Nous voyons aussi dans ce texte que des laïcs partagent la bonne nouvelle. Le verset 4 dit « Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu et annonçaient la bonne nouvelle de la parole ». C'est intéressant de voir ici que ce ne sont pas des spécialistes de l'évangélisation qui diffusent la parole, c'est ceux qui ont été dispersés, on pourrait dire le chrétien ordinaire, le chrétien lambda, qui, alors qu'il est obligé de fuir pour sa sécurité, continue à partager l'évangile. Il y a plusieurs citations que j'aimerais vous partager qui montrent le développement du christianisme dans les premiers siècles qui s'est fait tout simplement par le chrétien ordinaire qui partageait sa foi. Michael Green, dans son livre sur l'évangélisation dans l'Église primitive, écrit que l'agent principal de la mission a été l'homme de la rue, l'homme ordinaire, celui dont la littérature ne parle pas. Rodney Stark, dans son livre sur l'essor du christianisme, écrit « Le vecteur principal de son essor s'est concrétisé au travers des efforts unis et motivés d'un nombre grandissant de fidèles chrétiens qui invitaient leurs amis, leurs familles, leurs voisins à partager la bonne nouvelle. » Il n'est pas question ici de ministère spécialisé, d'évangélistes temps plein, il est question des chrétiens qui saisissent les occasions, qui invitent leurs amis, leurs voisins, leurs familles et qui partagent la bonne nouvelle. Un autre missiologue a écrit « Dans la plupart des cas, ce sont des personnes locales, anonymes, qui se sont taillés la part du lion dans l'évangélisation et la formation de disciples, et non des ministères expatriés. » Des missionnaires, pardon, excusez-moi. Des missionnaires expatriés. Merci. L'expansion de la bonne nouvelle dépend de chrétiens lambda. C'est à chacun de papoter l'évangile, si vous me permettez l'expression, autour de soi, dans ses loisirs, à son travail, dans sa famille, dans son voisinage. Les professionnels de l'évangélisation ne peuvent pas faire ce que les chrétiens ordinaires peuvent faire. Les professionnels de l'évangélisation ne sont pas avec vous dans votre famille, dans votre boulangerie, à la sortie de l'école, quand vous récupérez vos enfants, etc. Ils ne peuvent pas partager l'évangile avec vos amis. C'est donc à vous de le faire. D'ailleurs, le rôle des professionnels de l'évangélisation, c'est pas de faire tout le travail à votre place, mais c'est de vous former à le faire. Comme on peut le voir dans Éphésiens chapitre 4, les versets 11 et 12, où il est parlé des différents ministères de la parole, nous lisons, c'est lui, le Christ, qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Il l'a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ. Les ministères de la parole sont là pour équiper les saints, c'est-à-dire l'ensemble des croyants qui ont été sanctifiés par Jésus-Christ, aux tâches du ministère en vue de l'édification du corps de Christ. On pourrait dire un évangéliste est aussi un formateur pour former l'ensemble des témoins à accomplir leur rôle. Il y a eu en 2020 un article écrit par le directeur du mouvement de Lausanne, un mouvement qui réfléchit à l'évangélisation au niveau international, qui avait ce titre un peu énigmatique que je vais expliquer dans un instant. Nous, le 1% des chrétiens, présentons nos excuses aux 99 autres pourcents de chrétiens. Alors ce 1%, c'est les ministères spécialisés, les ministères temps plein qui présentent leurs excuses aux 99%, c'est-à-dire à l'ensemble des chrétiens qui n'ont pas un ministère temps plein. Et il explique pourquoi dans l'article. Il écrit « Vous, les 99%, n'existez pas pour aider les professionnels du ministère à accomplir le grand mandat missionnaire. C'est nous qui existons pour vous aider à le faire. » Vous voyez un petit peu le basculement ? C'est les ministères qui sont là pour équiper l'ensemble des chrétiens, pour que l'ensemble des chrétiens puissent accomplir le ministère, la propagation de l'évangile, l'édification. Alors, ce sont, on voit dans ce texte, verset 4, que des gens dispersés, des laïcs, on pourrait dire, entre guillemets, ce mot laïque, hein, dispersent, propagent l'évangile. Vous pouvez, par exemple, inviter vos voisins à prendre un apéritif. Vous pouvez inviter vos amis à participer à la fête de Noël le 15 décembre. Vous pouvez voilà, profiter des occasions qui vous sont données dans la vie de tous les jours pour « papoter » entre guillemets l'évangile autour de vous. Et nous voyons que la bonne nouvelle a été plus forte que la persécution. La persécution n'a pas arrêté la propagation de la bonne nouvelle. Et nous voyons aussi dans ce texte que la bonne nouvelle est plus forte que la magie. Ici, nous sommes confrontés à un obstacle idéologique ou même spirituel. Je relis les versets. Philippe descendit dans la ville de Samarie et prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les signes miraculeux qu'il accomplissait. En effet, des esprits impurs sortaient de beaucoup de démoniaques en poussant de grands cris et beaucoup de paralysés et de boiteux étaient guéris. Il y eut une grande joie dans cette ville. Un homme du nom de Simon se trouvait déjà dans la ville. Se présentant comme un personnage important, il exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple samaritain. Tous, du plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient « Cet homme est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la Grande ». Il l'écoutait attentivement parce qu'il les avait depuis longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut aussi, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Il voyait avec étonnement les grands miracles et signes qui s'accomplissaient. Nous voyons ici que la bonne nouvelle du royaume de Dieu est prêchée. Cette expression est intéressante. C'est la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Parfois, nous avons peut-être une vision étroite de la bonne nouvelle. En fait, la bonne nouvelle, c'est l'annonce du règne de justice, de paix et de bénédiction de Dieu. Nous l'avons lu dans le texte de Luc. La bonne nouvelle, c'est ce règne de justice, de paix, de bénédiction qui arrive. Par la venue de son roi, le royaume s'est approché. Une autre réalité est en marche. Une réalité où nous pouvons expérimenter une relation restaurée avec Dieu, avec les uns les autres, où les captifs sont libérés, où les aveugles retrouvent la vue, etc. Et les signes miraculeux que nous lisons dans ce texte sont des signes que ce royaume arrive. Alors, dans sa sagesse, Dieu a voulu que le royaume de Dieu se fasse en deux temps. La première venue du Messie inaugure le siècle à venir dans le temps présent, et la deuxième venue mettra finalement un terme au temps présent et consommera le siècle à venir. Donc nous sommes dans cet entre-deux où le royaume s'est approché, nous commençons à vivre quelque chose de ces promesses de restauration, de bénédiction, de justice de Dieu, et en même temps nous attendons que ce royaume s'accomplisse pleinement. Il est, on pourrait dire, en chargement, il est en process, et nous attendons la deuxième venue du Messie pour son accomplissement plein et entier. Nous aspirons à une autre réalité, mais la bonne nouvelle, c'est que cette autre réalité est en marche, elle va arriver. Nous aspirons à ce que les guerres s'arrêtent, eh bien, elles s'arrêteront, Jésus y mettra fin. Nous aspirons à ce que les maladies cessent, eh bien, elles cesseront. Une autre réalité est en marche. La bonne nouvelle, c'est que nos aspirations les plus profondes de sens, de justice, de paix, de prospérité, d'amour, de restauration seront satisfaites. Le règne de Dieu arrive. Et dès aujourd'hui, nous expérimentons les acomptes, les arts, comme dit la parole de Dieu, par le Saint-Esprit. Alors nous entrons dans ce royaume par la repentance et la foi, parce que sans le pardon des péchés, le juste règne de Dieu sur un peuple pécheur, c'est la condamnation. Mais pour que le juste règne de Dieu se traduise par la bénédiction, la justice, la paix, eh bien, il faut que ce peuple soit purifié de ses péchés. John Piper explique « Le roi doit mourir avant de régner, autrement son règne, puisque parfaitement juste, ne nous apporterait que le jugement et non le salut. Christ a donc dû acquérir par son sang tous les bienfaits du royaume que l'on retrouve dans les évangiles. Voilà pourquoi la croix doit toujours être le centre et la pierre angulaire de cette bonne nouvelle, et pourquoi ces bénédictions ne peuvent être nommées évangiles que si elles sont associées à la croix. Pour que le règne de Dieu soit favorable sur nous, nous avons besoin d'être purifiés de nos péchés, et donc la croix est le centre de cette bonne nouvelle, parce qu'il nous accorde cette réconciliation avec Dieu, du fait que le règne de Dieu pour nous, c'est un règne de bénédiction et plus de condamnation. Mais le pardon des péchés, bien que ce soit une grâce extraordinaire, ne constitue pas à lui seul l'ensemble des bénédictions du royaume de Dieu. Mais c'est ce qui nous permet de profiter de l'ensemble des bénédictions du royaume de Dieu. Et nous voyons que la propagation de l'Évangile se fait dans ce contexte avec plusieurs éléments. Alors, il y a l'évangéliste belge Marc Van de Woever qui a écrit dans son livre « Communiquer l'Évangile aujourd'hui » que la communication de l'Évangile se fait, on pourrait dire, sur deux jambes. Une jambe, c'est la démonstration de l'Évangile, et l'autre jambe, c'est l'explication de l'Évangile. Alors, dans le volet démonstration de l'Évangile, il y a l'action. Ça peut être l'action sociale ou l'action miraculeuse, comme dans ce texte. Et dans l'explication de l'Évangile, il y a la proclamation de l'Évangile et il y a aussi la conversation de l'Évangile, l'explication dans un petit contexte au 1 à 1. Et si nous regardons ce texte, nous voyons qu'il y a au moins trois éléments sur ces quatre qui sont représentés. Peut-être même le quatrième est présent. J'ai mis des points d'interrogation parce que je ne veux pas non plus trop tirer le texte pour le faire coller au schéma. Mais le rayonnement communautaire, il est parlé d'une grande joie dans la ville, etc. Il y avait sans doute aussi quelque chose du rayonnement communautaire qui avait lieu dans la démonstration de l'évangile. Donc la démonstration, c'est le fait de rendre le message visible. Et c'est vrai qu'il y a donc l'action miraculeuse ou sociale, compassionnelle. Il y a aussi le rayonnement communautaire. Je n'en ai pas dit un mot tout à l'heure, mais le rayonnement communautaire est encore divisé en deux vecteurs. On pourrait dire c'est l'amour fraternel. Vous savez, le Christ a dit c'est à l'amour que vous avez les uns pour les autres que l'on verra que vous êtes mes disciples. Et c'est aussi l'unité. Dans Jean 17, on voit que l'unité est une démonstration aussi de l'évangile. Et donc, nous voyons que dans ce texte, il y a beaucoup de succès, l'évangile se répand, mais on voit aussi qu'il y a plusieurs éléments de ce schéma qui sont représentés. Il y a de l'action miraculeuse dans ce texte, il y a la proclamation, il y a au verset 5, Philippe y prêche, il y a donc la conversation, les chrétiens qui sont dispersés, qui papotent l'évangile autour d'eux tout en voyageant. Et donc, je pense que c'est aussi des choses à réfléchir dans notre évangélisation, comment nous intégrons finalement tous ces éléments pour que l'évangile se répande avec puissance, avec succès. Et donc, nous arrivons à la conclusion, et j'aimerais simplement vous inviter à réfléchir. À quels obstacles physiques et matériels sommes-nous confrontés aujourd'hui? Dans Acte 8, c'était la persécution. Et aujourd'hui, quels sont les obstacles peut-être physiques, matériels, qui sont les nôtres, qui sont les vôtres ici à Antibes? À quels obstacles idéologiques ou spirituels sommes-nous confrontés? Quels sont les grands obstacles? Ici, il y avait la magie avec Simon le magicien. Peut-être aujourd'hui, les obstacles spirituels seraient plutôt de l'ordre de l'indifférence religieuse de nos contemporains. Et comment avancer malgré tout? Nous voyons que face à ces obstacles, l'Église de Jérusalem qui s'est dispersée jusqu'en Samarie n'a pas baissé les bras, elle a continué sa mission. Comment pouvons-nous continuer malgré les obstacles? Et nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit pour témoigner. Et je vous propose donc de prier pour que le Seigneur nous accorde cette grâce, cette motivation, cette puissance dans notre témoignage. Prions. Notre Dieu, merci parce que l'évangile est plus forte que la persécution. Merci parce que l'évangile est plus forte que toutes les idéologies, parce qu'elle transforme des vies, elle change des cœurs, elle restaure des vies brisées. Merci parce qu'une autre réalité est en cours. Le règne de Dieu s'est approché et un jour il sera pleinement instauré, pleinement accompli, pleinement mis en œuvre. En attendant, Seigneur, aide-nous à être des témoins fidèles. Aide-nous dans nos relations à papoter l'Évangile. Nous te prions, Seigneur, pour nos voisins. Nous te prions pour nos collègues de travail. Nous te prions pour les gens de notre famille. Nous te prions pour les gens dans les loisirs que nous côtoyons. Aide-nous, Seigneur, à être des reflets de l'Évangile. Aide-nous à manifester l'Évangile et à expliquer l'Évangile. Nous avons besoin de ton Saint-Esprit qui nous équipe. Nous avons besoin que l'Esprit ouvre des cœurs. Nous avons besoin que tu nous remplisses de courage, de force et de persévérance. Seigneur notre Dieu, viens faire ton action dans nos vies et permets-nous, Seigneur, d'avoir la joie de participer à la propagation de la bonne nouvelle. Amen.